Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Bonjour à toi, chère auditrice, et bienvenue dans la saison 2 du podcast Parents informés. Moi, c'est Charline, la créatrice de ce podcast, dans lequel je te propose de l'information sur la grossesse, la petite enfance et l'enfance, sous forme de conversations détendues avec des intervenants spécialisés. En effet, pour chaque thème abordé, je cherche l'intervenant le plus adapté pour lui poser les questions que l'on se pose souvent en tant que parent, et je viens ici les partager avec toi. Un nouvel épisode est publié le mercredi toutes les 2 semaines, et pour être tenu informé, tu peux t'abonner à la newsletter en m'envoyant un email à parentsinformés@gmail.com. Si tu aimes ce podcast, parle-en autour de toi pour le faire connaître à tes amis ou à ta famille. La communauté Patreon du podcast permet de le soutenir financièrement en accédant à des contenus exclusifs et notamment des fiches résumées de chaque épisode. Si tu as envie de rejoindre cette communauté, tu peux t'abonner pour quelques euros par mois sur le site www.patreon.fr/parentsinformés. Je te mets le lien dans les notes descriptives de l'épisode. Pour ce 45e épisode, je reçois Elodie Emo, qui est infirmière péricultrice et la cofondatrice de My Jolie Family, et Gilles Vaquier de la Baume, le fondateur de l'atelier du futur papa. Tu as déjà entendu Elodie dans l'épisode 29 sur la communication bienveillante et dans l'épisode 37 sur les difficultés maternelles. Dans l'épisode d'aujourd'hui, elle croise son regard avec celui de Gilles pour parler de la paternité en 2022. La paternité, tout comme la maternité, se vit rarement seule et elle est en pleine évolution. Alors que la société commence tout juste à faire de la place aux pères, de nombreuses questions se posent pour eux, comme pour les mères, pour inventer de nouveaux schémas familiaux. Dans cet épisode, nous abordons ces questions de la construction du lien avec l'enfant lorsque les deux parents sont à la maison, mais aussi à la reprise du travail du père qui se fait souvent bien avant celui de la mère, de la place de chacun dans ce nouveau rôle et dans cette nouvelle configuration familiale, et de la sexualité, question encore trop peu abordée et pourtant centrale. N'hésitez pas à écouter cet épisode en couple pour pouvoir ensuite discuter ensemble autour de tous ces thèmes. J'espère que cet épisode vous plaira et vous souhaite une belle écoute. Bonjour Elodie, bonjour Gilles.
Bonjour.
Bonjour Charline.
Et merci d'avoir accepté de participer au podcast. Avec vous deux, on va parler paternité et maternité et essayer de comprendre un petit peu les différences qui se jouent entre les hommes et les femmes, en particulier dans les couples hétérosexuels, puisqu'on observe de plus en plus qu'il y a des différences dans les couples, entre les couples homosexuels et les couples hétérosexuels. Mais avant ça, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, présenter votre parcours, votre métier, s'il vous plaît?
Je m'appelle Elodie Emo, je suis infirmière puéricultrice de formation, chargée de formation pour les auxiliaires de puériculture. Je suis cofondatrice de My Jolie Family qui propose des consultations de soutien à la parentalité et je suis aussi cofondatrice du collectif Je suis infirmière puéricultrice et prochainement aussi intervenante dans les cercles de parents en Bourgogne-Franche-Comté.
Et donc, pour moi, bonjour, je m'appelle Gilles Vaquier-de-la-Baume, je suis anciennement formateur en pharmacie et j'ai lancé une entité qui s'appelle Atelier du futur papa il y a 8 ans de cela, bientôt déjà. Et puis, je suis également aussi auteur de 2 livres et un 3e à venir au mois de mai 2022.
Ok, ça marche. Les ateliers des futurs papas, il y en a combien ?
Alors, il y en a tous les mois à Paris, puis il y a également aussi Atelier du futur papa Bordeaux, Bretagne et Provence, et qui sont également aussi en plein développement, puisque bah, effectivement, c'est l'objet du rendez-vous d'aujourd'hui, eh bien, les pères d'aujourd'hui ne sont plus les papas d'hier, et donc ils cherchent aussi des lieux comme ça réservés aux hommes, où la parole puisse être libérée sans jugement, et où ils puissent être finalement se préparer à être acteurs, pleinement acteurs de cette nouvelle vie. Voilà, c'est un désir qui est vraiment montant chez ces nouveaux pères.
Qu'est-ce qui fait que de plus en plus les pères, ils ont cette envie de s'impliquer ? Est-ce qu'il y a eu une bascule à un moment donné ? Est-ce qu'on sait qu'est-ce qui a changé ?
Ben alors, c'est assez récent, oui et non. Je pense que c'est assez progressif. Je pense que depuis des dizaines d'années, en même temps qu'il y a eu le changement de la place de l'enfant, il y a progressivement eu un changement aussi au niveau de la place des parents. Sociétalement parlant, avec l'évolution des mœurs, avec voilà, les choses qu'on voit au niveau égalité homme-femme, il y a aussi tout ce processus qui s'est mis en place. Donc, je pense que ça fait un moment quand même que les choses évoluent petit à petit. Et je pense que c'est devenu une priorité aussi au niveau gouvernemental, au niveau de la politique qui est menée. Ça, donc ça aussi, ça a aidé. On voit que Gilles, ça fait déjà 8 ans hein, qu'il propose des ateliers Futur Papa. Après, je pense qu'il va encore falloir du temps pour changer en profondeur les mentalités, les mœurs sociétales. Voilà. Donc je pense qu'on va vers une place encore plus grande, encore plus mature des pères d'aujourd'hui. Voilà.
De ton côté, Gilles, toi, dans les ateliers, est-ce que tu vois qu'il y a une plus grande demande et qu'est-ce qu'ils expriment les pères quand ils arrivent chez toi ?
Incontestablement, ils viennent de plus en plus nombreux et motivés. Au début, on voyait que c'était beaucoup des papas qui étaient recommandés, si j'ose dire, par le bon cadeau offert par la maman. On n'est plus dans cette configuration-là, c'est-à-dire que d'eux-mêmes, ils recherchent donc des cours futurs jeunes papas sur Internet. Ils recherchent à s'enquérir d'informations pour démarrer dans cette nouvelle vie. Et finalement, ça revient à tout ce que tu as dit, Élodie, l'égalité homme-femme, les nouvelles méthodes. C'est tout ça, c'est un cheminement qui se fait un petit peu chaque jour. Évidemment, le congé paternité, tout ça, c'est un cheminement. Et ce qui les motive, c'est cette question de pouvoir s'impliquer au plus tôt et au plus fort. Moi, d'ailleurs, c'est le message principal que je leur fais passer. Et leur crainte, c'est de passer à côté, finalement, de ce grand événement, de ne pas reproduire les schémas du passé, tout en ne sachant pas non plus sur quoi s'appuyer, puisque c'est difficile de transmettre ce que soi-même on n'a pas reçu. Donc, voilà, c'est un peu l'inconnu qui est devant eux. C'est l'objet premier de leur venue, de venir un petit peu illuminer le chemin de ce futur. Voilà, moi, je me plais à leur dire que je vais leur montrer la grandeur de la montagne qui est devant eux, parce qu'on ne rentre pas dans la parentalité comme si on rentrait comme ça dans un supermarché, j'allais dire. Et également aussi leur montrer le chemin pour arriver, illuminer au moins une forme de chemin pour arriver jusqu'à ce sommet. Parce que finalement, il faut non seulement ne pas rentrer un petit peu comme ça par hasard, mais aussi avoir un idéal et quelque chose auquel on peut s'accrocher. Et voilà, un objectif à se fixer. Évidemment, l'idée, ce n'est pas d'être à la perfection. L'idée, ce n'est pas de se dire qu'il n'y aura pas d'erreur. Mais il y a des rechutes. Et bien, au moins, on sait à quoi se raccrocher pour repartir du bon pied. Voilà, c'est ça qui est important parce que finalement, quand les choses ne se font pas de la manière, ne se déroulent pas de la manière dont on souhaiterait qu'elles se déroulent, ben finalement, après, on n'a rien à s'accrocher. Et c'est là que ça peut faire l'effet sens inverse, c'est-à-dire qu'on se laisse aller et la relation parent-enfant, papa-maman se dégrade. Alors que finalement, quand il y a un idéal, eh bien, ça permet de se raccrocher à quelque chose et de venir contrecarrer tout ça et éviter donc les séparations, notamment, puisqu'on sait qu'en France, il y a 25% des couples qui se séparent dans l'année qui suit l'arrivée de l'enfant. Ce n'est pas pour rien, cette succession de découvertes, finalement, qui sont un peu brusques pour chacun des deux parents, pour l'entité du couple également aussi, ben, ça vient bousculer. Cette tranquillité, j'allais dire, établie. C'est ce trouble qui est un peu gênant et qui nous amène parfois aussi, comme dans les réactions de stress, on attaque, on fuit, on reste figé, et souvent ça peut être la fuite. Donc ça peut se traduire par la séparation. Voilà, donc c'est tout ça qui se cache derrière. On ne peut pas répondre comme ça d'une manière un peu... laconique, c'est tout un événementiel, j'allais dire, qui est autour de la paternité, qui l'amène à briller aujourd'hui telle qu'elle est.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est une aventure avec beaucoup, beaucoup d'inconnus, et je pense que les ateliers, comme tu les mets en place, donnent des outils, donnent des clés pour pouvoir faire face à une aventure qui est une aventure qui peut être superbe, mais qui est aussi semée d'embûches. Et donc, plus ils ont d'outils, plus ça va être facile pour eux de pouvoir se raccrocher aux éléments qu'ils vont avoir. Et pour rebondir sur autre chose, c'est vrai que pour les pères, c'est plus difficile que pour les mères, puisqu'il n'y a pas 9 mois de grossesse, il n'y a pas tout ce vécu, cette maturation psychique, cette maturation physique. Donc, ils ont besoin d'être peut-être même encore plus préparés. On sait que dans le suivi médical, dans tout ce qui peut être mis en place, ils sont à côté d'eux, mais ils vivent pas les choses de la même manière que les femmes. Donc, quand tu dis au plus tôt, au plus fort, oui, je te rejoins tout à fait.
Est-ce qu'on sait à peu près, est-ce qu'on a une idée dans la majorité des cas, on parle toujours d'une majorité de cas, c'est évidemment propre à chacun, mais à quel moment est-ce que le père, il réalise qu'il va vraiment être père et ce que ça implique pour lui et pour sa vie? Parce qu'effectivement, en tant que femme, on le vit à l'intérieur de soi. Et donc, quelque part, on a un peu cette projection qui est obligatoire parce qu'on sent le bébé bouger plus facilement, etc. Pour les pères, à quel moment ça se joue? Est-ce que ça se joue pendant les cours de préparation à la naissance? Est-ce que ça se joue plutôt à la maternité quand l'enfant est là et qu'il réalise enfin? Est-ce que d'abord, physiologiquement, est-ce qu'il se passe quelque chose dans leur cerveau aussi du fait d'être père ou pas du tout? Et après, psychologiquement, comment ça se met en place tout ça chez eux?
Il n'y a pas de moment précis. Alors, chez les pères, on parle d'adoption. On parle d'adoption parce que, comme tu viens de le dire, Charline, il n'y a pas de temps d'introspection aussi viscéral que chez la femme. Donc, il n'y a pas vraiment de moment précis. C'est-à-dire que plus le père va être sensibilisé, plus l'adoption va se faire facilement et simplement. Donc, ça peut être aussi bien au moment de la grossesse, même au début de la grossesse, où on voit de plus en plus de pères justement qui vont être investis déjà dans l'achat du matériel, dans la projection, que bien plus tard. Moi, je me rappelle de l'anecdote, alors c'était il y a quand même plus de 5 ans, de l'anecdote d'un père qui m'avait dit qu'il s'était vraiment senti père, que quand il avait commencé à jouer, alors je ne sais plus si c'était au foot, mais un jeu de ballon avec son fils. Et donc, ce qui démontrait vraiment que lui, il avait eu besoin de beaucoup de temps et qu'il n'avait pas réussi à adopter, entre guillemets, son fils avant ça. Je pense que la société, les messages qui passent et tout ce qui peut être mis en place autour des parents va faciliter cette adoption et va faire qu'elle va être de plus en plus tôt. Mais il n'y a pas, à mon sens, en tout cas, il n'y a pas de moment figé, de moment déterminé à l'avance par rapport à le fait de se sentir père. La femme donc, porte son enfant et psychiquement et physiquement, et donc ça permet une maturation qui est progressive.
D'une manière générale, sans préparation, c'est vrai que comme il n'y a pas le cheminement qu'évoquait Elodie chez la maman, donc pas ce cheminement chez l'homme, on devient père d'une manière un peu brutale. Et paradoxalement, on a dans cette période une capacité de projection qui est beaucoup plus importante que la maman qui, elle, va rester un petit peu plus focus donc sur cette question, et on la comprend, de l'accouchement. Voilà, donc l'erreur à ne pas faire, qu'évoquait Elodie, c'était d'attendre les premières interactions, puisque l'homme aime bien être dans le visuel, dans l'échange, dans l'interaction, d'attendre les premières interactions avec l'enfant pour commencer à créer du lien avec lui. C'est la fausse bonne idée, si j'ose dire. Et de ce fait, ça revient à l'introduction quand on parlait donc de au plus tôt, au plus fort. C'est vraiment cette notion qui est importante à envoyer au papa pour qu'ils se sentent vraiment et pleinement investir de leur rôle et qu'ils prennent chaque opportunité de change, de bain, de soins, d'hygiène, etc., comme vraiment une occasion de créer du lien avec leur enfant. Et c'est le conseil, en tous les cas, que je leur donne quand ils viennent et qu'on partage ces moments ensemble de préparation à la parentalité.
Donc, tu posais la question de savoir si au niveau psychologique ou au niveau physique, il y avait des changements. Alors, on parle de couvades, des fois, qui arrivent chez certains papas où ils vont grossir un peu pendant la grossesse de leur femme. Donc, oui, au niveau psychologique, il se passe des choses. Après, ce n'est pas valable pour tous les hommes, c'est personne dépendant. Mais en tout cas, on sait de sources sûres hein, que c'est en faisant des soins pardon, que le papa va créer du lien et qu'au niveau des neurones et de l'enfant et du papa, il y a vraiment des choses qui se passent, quoi. On sait que c'est à ce moment-là que le lien se crée relationnel, vraiment quelque chose de très très fort, par le soin.
Dans tout ce que j'entends là, il y a quand même une notion qui est très importante, c'est le fait que le père, dès le plus tôt, il prenne soin de cet enfant. Et j'ai l'impression, mais vous allez me dire si c'est vrai ou pas, que quand même encore en maternité, par exemple, les personnels de soins s'adressent beaucoup à la maman et que même si le papa est là, c'est à ce moment-là qu'il y a aussi quelque chose qui se joue du fait de proposer plus au papa et de qu'il prenne sa place, enfin que les personnels de soins lui proposent aussi plus de prendre sa place à ce moment-là. Est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez, par exemple, dans la formation que toi tu donnes aux auxiliaires de puéricultrice, Elodie?
Alors, tout à fait, c'est quelque chose qu'on a évoqué aussi avec Gilles. On l'a dit tout à l'heure, la place de l'enfant a évolué, la place des parents aussi, mais quelque chose qui a du mal à bouger, hein, sociétalement parlant, c'est la place du père, par exemple, en maternité. Et même avant, mais surtout en maternité. Si on se focalise sur la maternité, il y a beaucoup de pères qui vont relater avoir mal vécu l'accouchement de leur femme, avoir eu la sensation d'être mis à distance, hein. D'ailleurs, dans la salle d'accouchement, souvent, ils sont mis au fond de la pièce, et qu'on leur explique pas les choses. Déjà, il y a ça avant que le bébé arrive qui peut être très mal vécu de la part des pères. Pendant la crise Covid, on a vu, hein, les pères avaient pas le droit d'être là présents tout le temps, donc ils étaient de nouveau mis à distance, alors que c'est une triade, c'est-à-dire que c'est un enfant qui se conçoit à deux et qui doit être accueilli, accompagné à deux. Donc, ça paraît aberrant aujourd'hui qu'il n'y ait pas, par exemple, dans tous les hôpitaux, des chambres doubles et que ce soit une évidence qu'on accueille monsieur, madame, veuillez vous installer dans votre chambre et votre lit double. Ça commence à se faire notamment à l'hôpital de Strasbourg et dans d'autres pays, mais aujourd'hui, je dirais qu'il va falloir qu'on prenne vraiment en considération l'importance de cette triade fondamentale. Et dans l'inconscient collectif des soignants et des soignantes, puisqu'on sait qu'en maternité, c'est 90% de femmes. Moi, j'ai des élèves auxiliaires de puériculture qui m'ont relaté que bah, ça dérangeait. En fait, que le père qui dormait sur un petit lit de camp à côté de sa femme dans la chambre qui avait une césarienne ou autre, ça pouvait déranger, qu'il y avait des remarques qui étaient faites encore comme « Oh là là, je suis entrée dans la chambre, il est en caleçon ». Et en fait, enfin, le papa peut accueillir un enfant, lui aussi, il a le droit de se remettre et lui aussi, il a le droit d'avoir son petit déjeuner ou des choses comme ça où on allait servir le petit déjeuner à la maman et pas au papa. Donc, je pense que il y a un gros travail à faire de sensibilisation. Le père, il doit être inclus, intégré, présent dès ce moment-là et même avant. Hein, mais je pense qu'avant, il est quand même intégré dans le sens où quand il y a les échographies, il est juste à côté, il y a les rendez-vous. Voilà. Mais au moment de la maternité, il y a quelque chose qui se passe. Et Gilles va compléter mes dires, mais je pense qu'il y a des pères qui peuvent être traumatisés par des accouchements difficiles, qui ont peut-être besoin d'avoir un espace de parole. Et peut-être que pendant les ateliers de Gilles en postpartum, c'est des choses qui émergent. Je pense qu'il y a vraiment un conditionnement des rôles et dès le plus jeune âge, et ça, il va falloir en sortir. Et donc ça, je pense que voilà, il y a des choses avec des pubs pour les jeux des enfants qui sont déjà mis en place, mais il y a un gros rôle éducatif aussi à faire dès le plus jeune âge pour qu'il y ait un déconditionnement de ces rôles sexués dommageable dans le fait de devenir père, je pense.
C'est vrai, Elodie, il y a beaucoup de. Ça ressort beaucoup. Moi, j'ai des jeunes papas avec des petits nourrissons qui viennent et effectivement, ça ressort. Incontestablement, ça fait partie même des premières choses qui sont évoquées. Donc, après, alors pour les défendre un peu, pour me faire l'avocat du diable, j'allais dire qu'effectivement, ben, la masse de travail, etc., ne permet pas d'accorder le temps et qu'on va à l'essentiel et qu'il y a peut-être ça aussi qui joue. Enfin, tu es peut-être mieux placé que moi pour le dire, mais Je pense qu'il y a aussi cette notion-là, mais ce n'est pas pour autant qu'il faille le négliger, parce qu'effectivement, eh bien, c'est comme une table à trois pieds, si vous enlevez un pied, ça ne tiendra jamais. Donc, au final, on en revient toujours à cette notion de, comme tu le disais, de la triade, de prendre possession, de prendre acte, donc de cette assimilation du rôle parental au plus tôt, et par cette triade, par cet effet de groupe, par cette dynamique, finalement, de vie de famille, ce souffle à trois, parce que aussi, après, la maman, ça lui fait beaucoup à porter sur les épaules. Si elle est toute seule, elle vient d'être toute jeune maman, il y a tout un tas de transformation physiopathologique, j'allais dire, et puis la chute brutale d'hormones, et puis aussi la charge mentale qui va rentrer en ligne de compte et qui sera d'autant plus importante qu'elle s'en sentira seule. Donc, à ce propos, moi, ce que je leur dis justement, c'est qu'on va positionner le berceau du côté du papa, même si la maman allait, pour qu'ils participent ensemble à cette dynamique de démarrage, qui est cette notion de coéquipe tout de suite, cette division de la charge mentale, que si on encourage la maman, ça facilite l'allaitement, qu'on vit cette difficulté à deux dès le départ. Voilà, ça fait partie des conseils que je peux distiller pendant ce cours, parce que cet engagement donc du père qui va susciter cette notion de coéquipe, elle est fondamentale, et dès le départ, parce que sinon on l'a vite fait à 3 mois, quand c'est le moment où l'enfant va crier le plus, où finalement les amis vont moins vous visiter, où il y a tout un, vraiment, on a, j'allais dire un point de bascule, finalement il faut continuer à être dans cette dynamique, il ne faut pas que ça s'essouffle, et c'est ce qui permet de passer ces premiers 6 mois qui sont un petit peu particuliers, de les passer avec le moins de, voilà, que ce petit tremblement de terre soit pas si fort pour tout le monde, et que ça puisse se passer, et que finalement après les choses reviennent à l'ordre.
Je partage totalement cette idée d'équipe, cette idée de dynamique, de petit groupe, triade, de cette image que tu donnais d'une table avec trois pieds, qui a besoin de ses trois pieds pour tenir. C'est fondamental d'avoir ça en tête. Le père, il a un regard différent. On va en parler tout à l'heure, mais le père, il se projette pas de la même manière. Il a il a un émotionnel plus distancé qui lui permet de prendre parfois des décisions différentes et d'aider la mère qui, elle, va être dans une imprégnation très forte. On sait que le postpartum, c'est une période de grande, grande vulnérabilité pour les femmes. Maintenant, on en parle beaucoup, il y a une vraie libération autour de ça. Donc, le père, alors le coparent dans l'absolu, mais en tout cas, là, dans ce cas-là, le père a un rôle immense et une place immense. Enfin, je veux dire, il ne peut plus être mis de côté pour que les choses se passent bien. On le sait maintenant. Et que parfois, vu qu'il y a un peu plus de raison dans son fonctionnement en postpartum que chez la mère, qui est dans du viscéral, qui est dans de... Parfois, c'est quelque chose... voilà, c'est des enfants qu'on a portés, on le disait tout à l'heure, et donc il y a quelque chose de viscéral. Et des fois, quand on est trop dans l'émotionnel, on a des difficultés aussi à prendre certaines décisions ou autres. Et le père, il peut être là pour nuancer, pas pour nier ce que ressent la mère, parce que le père, il va être à l'écoute de ce que ressent la mère, mais pour l'aider à nuancer peut-être un peu certaines choses qui vont être difficiles à vivre pour elle.
J'ai une dernière question par rapport aux soignants, et après, on reviendra plus en détail sur les pères. Est-ce que le fait que tout à l'heure, Gilles, dans la présentation, tu disais c'est des ateliers pour les papas faits par des hommes, est-ce que le fait que dans les métiers de la parentalité il y ait quand même énormément énormément de femmes, c'est un métier qui est, enfin, quels que soient d'ailleurs les métiers, que ce soit pour l'allaitement, pour la diversification, pour le sommeil, les sages-femmes, les péricultrices, c'est quand même à majorité des femmes. Est-ce que le fait qu'il y ait très peu d'hommes dans ces métiers-là, ça joue aussi dans le fait que les pères, ils ont moins de facilité à s'exprimer avec ces professionnels-là?
C'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est cette question du rapport d'homme à homme qui fait que, on se sent pleinement libre de ses propos, et on sait qu'il ne va pas y avoir cette notion de jugement, de regard réprobateur, de réflexion qui pourrait tomber, qui pourrait venir nous bloquer, puisqu'effectivement, dès qu'on va avoir une petite contrariété, on va avoir tendance quand même à être en mode à faire l'huître, et puis à, et puis à couper la communication très souvent. C'est très masculin. Donc oui, incontestablement, une arme, si j'ose dire, essentielle pour que levier pour que les papas passent à l'acte, donc de venir aux ateliers. Et puis vis-à-vis du personnel, c'est également la même chose. Il y a cette crainte peut-être aussi non dite du jugement si c'est une femme qui va nous présenter les choses. Et c'est pour ça que moi j'interviens dans des maternités. C'est peut-être irrationnel, certainement d'ailleurs, puisqu'on pourrait très bien avoir une bonne relation et exprimer ça auprès d'une femme. Mais de base, on se sent plus à l'aise, plus enclin. Comme le disait Elodie, on est plus, nous, d'une manière générale, l'homme, par rapport au sentiment, dans une notion de résistance. Finalement, le fait qu'ils aient un homme en face d'eux, c'est ce qui va briser ce mur et c'est ce qui fait qu'ils vont avoir beaucoup plus tendance à se livrer. Alors, le corps médical, il est principalement féminin, ça n'aide pas. Et c'est aussi peut-être, comme le corps médical est beaucoup, représenté par les femmes, qu'ils sont de plus en plus enclins à vouloir participer à des ateliers qui finalement sont réservés aux hommes et qui sont réalisés par des hommes, où on peut prendre la parole sans la crainte de quoi que ce soit. Et c'est vrai qu'aussi, il y a la question de la sexualité qui est évoquée par les hommes et qui est peut-être plus facile à évoquer quand c'est un homme qui est en face d'eux.
On parle beaucoup de sororité ces derniers mois, ces dernières années, pour les femmes autour de l'accouchement. Et je crois que c'est important de se dire qu'on a le droit aussi d'avoir envie de se retrouver entre femmes, entre hommes pour en discuter, et que ça ne veut pas dire que pour autant on s'affronte et qu'on ne peut pas avoir des espaces aussi où on pourrait communiquer tous ensemble. Cette histoire de... Mais vous allez me corriger si je me trompe, mais cette histoire d'hommes qui sont plus distanciés et de femmes qui sont plus dans les émotionnels, c'est aussi lié à toute notre éducation. Et que donc, en formant des nouvelles générations où les hommes seront moins distanciés avec leurs émotions et où les femmes seront plus enclines à les accepter aussi et à vivre avec, peut-être que dans les futures générations, il y aura moins besoin de cette différence d'atelier d'hommes, d'atelier de femmes et de séparation parce que la parole est difficile aujourd'hui, mais qu'il faut quand même prendre en compte le fait qu'on vit dans une société qui est comme ça et que si on veut que ça change, il faut aussi en passer par là pour que la parole se libère avant de pouvoir faire évoluer les mentalités.
En fait, il faut savoir que quand on parle de processus maturatif dans la parentalité, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, en effet, il y a des dizaines de milliers d'années, enfin voilà, il y a des choses qui ont fonctionné longtemps d'une certaine manière. Et donc, il faut, et ça, l'épigénétique le prouve, il faut du temps avant de changer aussi les comportements, certains comportements un peu. Alors, il y a l'éducation, il y a le levier, évidemment, de l'éducation qui est hyper important. Puis après, il y a aussi, comme tu dis, en changeant les manières de penser, en verbalisant les choses, les enfants d'aujourd'hui ne vont pas recevoir les mêmes outils dans leur sac à dos. Et donc, forcément, eux, ils feront aussi différemment avec leurs propres enfants. Moi, je pense que, pour reprendre ce que disait Gilles, je pense que ça peut être important d'avoir en effet des espaces que d'hommes et que de femmes, et puis c'est en fonction des désirs de chacun, ça peut tout à fait s'entendre. On sait que par exemple, des fois on aime bien se retrouver entre copines, et puis les garçons entre copains, ça c'est des choses qui s'entendent même dans d'autres domaines que la parentalité. Après, j'espère bien qu'un jour, les pères se sentiront moins jugés, parce que c'est une vraie réalité, hein. Ça s'explique. Moi, avec les cercles de parents, j'espère bien pouvoir réunir et les hommes et les femmes, justement, dans des lieux où il n'y aura évidemment pas de jugement pendant ce temps-là, des temps de parole, parce qu'il ne faut pas oublier que ce qui les unit quand même, ces hommes et ces femmes, c'est ce bébé qui naît. Et là-dessus, ils ont beaucoup d'interrogations communes. Ils ont beaucoup de questions, Gilles l'a dit, mais la plupart des interrogations sont communes, mis à part que, Gilles le disait, au niveau de la place et du rôle, la société a plus assis le rôle de la femme, voilà, d'ailleurs... Elle essaie de s'en sortir puisque c'est extrêmement enfermant d'être là-dedans. On a parlé dans un précédent podcast de l'instinct maternel qui n'existe pas en réalité. Et donc, il n'y a pas plus de légitimité au fond du rôle de mère que celui de père. Mais tout reste à construire encore aujourd'hui, je pense.
Tout à fait. Alors, j'aimerais bien qu'on revienne au père parce qu'on parle beaucoup des papas qui ont envie et il y en a de plus en plus et c'est génial. Mais on a encore quand même pas mal de pères qui n'ont pas du tout conscience de ce rôle qu'ils ont à jouer, ou en tout cas, enfin, je ne sais pas comment ils le vivent eux, mais en tant que femme, on a un peu cette impression-là parfois. Comment on fait quand on a un compagnon ou un futur père dont on a l'impression qu'il n'a pas du tout réalisé ce qui allait se passer et l'importance de sa place auprès de la maman pour l'amener doucement à réaliser ces choses-là et à le faire évoluer?
On lui offre un bon cadeau pour l'atelier du futur père.
Pour commencer, on commence par ça. On l'envoie voir Gilles.
Oui. Non, je dis ça, j'ai eu une maman hier, justement, qui c'est exactement le cas de figure, qui m'a téléphoné pour c'est exactement les propos que tu as tenus. Donc, non, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident.
Déjà, est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui fait qu'il y en a certains encore qui ne réalisent pas ça et d'où ça vient, cette différence entre les pères et les mères, déjà?
Ben, ils sont nombreux. Premièrement, et deuxièmement, peut-être aussi, c'est la question sous-jacente de l'implication émotionnelle et donc de la résistance, parce qu'on est encore dans des vieux schémas archaïques, désuets, qui viendraient, comment dirais-je, faire une association par voie de fait. Si je me délivre du côté émotionnel, ça veut dire que j'exprime une faiblesse. C'est cette question aussi de la redéfinition de la place et de son rôle. Comment est-ce que je peux rester masculin tout en étant dans cette place et dans ce rôle de père qui finalement m'amène d'un côté émotionnel, donc d'un côté, comment dirais-je, d'affichage de faiblesse, voyez, et qui n'est pas forcément, qui ne renvoie pas de leur point de vue, parce qu'on a ancré les choses comme ça, à quelque chose de positif, alors qu'au contraire, ben, la masculinité, comme la féminité évidemment, peut s'exprimer sur toute ce champ.
Je dis souvent, verbaliser ses faiblesses est une force. Alors, encore plus pour les hommes que pour les femmes, on est quand même dans une société où on tait ses difficultés, hein, où, alors qu'on sait qu'après, ça s'imprime sur le corps, ça crée de la somatisation, des maladies et des problèmes psychiques. Donc, tout à fait, je pense que chez les hommes, hein, on parle de résistance, il y a une verbalisation qui est un petit peu plus difficile. Après, je dirais qu'il y a aussi leur bagage d'enfant. L'enfant qu'ils ont été, quel père ils ont eu, est-ce que leur père a été présent, est-ce qu'ils n'ont pas eu de père, est-ce qu'ils ont un père très attentionné ou plutôt un père très distancié. Et donc ça, au moment où le père va redevenir père lui-même, bah, va venir se rejouer une partie de l'enfant qu'il a été et de quel père il a eu. Pas toujours, hein, y a pas de formule magique par rapport à ça. Il y a des pères qui n'ont pas eu de père qui vont être des pères extrêmement investis, au contraire. Mais on peut retrouver des explications si on va chercher de ce côté-là aussi. Donc, il y a une explication du côté de l'histoire intime du père en devenir. Et il y a une histoire aussi liée à la société et des rôles prédéterminés. On a l'impression qu'on a le choix, mais en fait, on n'a pas tant le choix que ça. Parce qu'il y a des choses dès tout petit, même si ce ne sont pas les parents qui induisent ça chez leurs enfants, ça va être fait à l'école, ça va être fait dans les milieux. Et donc, bah, depuis petit, quand on a des messages ancrés comme ça, de déterminisme très sexué, ça vient se rejouer à l'âge adulte et quand le père, lui, à son tour, va redevenir père. Et parfois, c'est très inconscient. Et donc, comme Gilles dit lors des ateliers... on vient déconstruire certains comportements, mais il faut aller toucher, avant de déconstruire certains comportements, il va falloir aller toucher à ce qui a été ancré de manière inconsciente chez les papas.
Oui, c'est ça, c'est la peur d'aller finalement à la rencontre de cet inconnu qui est au fond de soi, et puis, si j'ose dire, de l'affronter et de regarder ça en face. C'est un peu, il y a une forme de douce violence derrière ça. C'est pas évident, c'est pas donné à chacun. Parce qu'il faut accorder, comment dirais-je, l'espace-temps nécessaire pour que ça fasse résonance et qu'on puisse finalement, comment dirais-je, bien appréhender tout ça dans son ensemble pour pouvoir un peu reprendre la main sur la situation. Donc, de ce fait, comme c'est un peu dérangeant, on met un peu la poussière sous le tapis et puis on se dit que dans tous les cas, c'est la maman qui va gérer. Et elle se retrouve avec une charge mentale très importante, associé à tous les bouleversements donc physiologiques, et finalement on voit bien que c'est très difficile, c'est d'autant plus compliqué. D'où, si on remonte le fil en arrière, l'importance de cette implication de ce père, et encore plus en amont, l'importance de l'acquisition de ces connaissances, du développement de compétences spécifiques pour se préparer à cette parentalité qui est un bouleversement comment dirais-je, qui peut être un doux bouleversement s'il est un peu anticipé, mais qui peuvent être un bouleversement, comment dirais-je, séparateur. Il y a quelque chose, moi, que j'aime bien évoquer, c'est cette notion de l'enfant, finalement, qui arrive, qui est à la fois trait d'union, qui va réunir les deux parents, mais comme un trait d'union, il est aussi le trait séparateur. Si l'enfant est toujours au milieu, donc s'il est toujours, ce que je leur dis, c'est que si l'enfant est toujours, comment dirais-je, parmi vous, il sera entre vous. C'est-à-dire qu'il faut refaire couple aussi le plus rapidement possible. Et ça, c'est un message qu'il faut envoyer au père. Je pense qu'en tant qu'homme, si c'est un message qui est plus facile à faire passer pour moi et qu'ils sont plus réceptifs parce que je suis cet homme-là, de leur dire qu'il faut refaire couple le plus rapidement possible en postnatal. S'occuper du nourrisson, effectivement, ben c'est la notion du jeune, comment dirais, la prérogative du jeune parent. Mais refaire couple, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment fondamental pour participer. Justement, c'est une bûche de plus au feu de cette dynamique de la vie de famille.
Quand tu dis refaire couple, ça veut dire quoi? Enfin, alors moi, j'entends deux choses derrière ça. Il y a refaire couple par rapport à la sexualité, on en parlait tout à l'heure, et je pense qu'il faut aussi que les hommes, ils entendent qu'une femme qui vient d'accoucher, la sexualité, c'est pas sa priorité. Parfois même, ça peut être difficile, émotionnellement et physiquement. Et il y a refaire couple en tant que prendre soin l'un de l'autre, et en particulier dans le postpartum, l'homme qui peut prendre soin de la maman.
Ben, c'est les deux choses que tu viens d'évoquer à l'instant. C'est cette question de la sexualité que l'on va évoquer, à partir de quand on peut reprendre une sexualité, qu'est-ce qui se passe chez les femmes, ce que tu as évoqué à l'instant en postnatal. Il y a cette question-là. Et puis aussi le nourrisson qui va dormir dans la chambre les premiers mois, ça ne favorise pas. Donc aussi, comment dirais-je, ça fait partie du tremblement, cette question du petit tremblement de terre du postnatal, cette question, et bien maintenant, comment dirais-je, du trouble, du rythme habituel au couple sur cette question de la sexualité. Et la deuxième chose, c'est refaire couple pour, moi je leur dis, s'occuper de la maman encore en postnatal, encore plus que pendant l'accouchement. C'est vrai, et prendre du temps exclusif dès qu'on peut après la naissance. Voilà, moi, les messages que je peux envoyer pour que, eh bien, parce qu'en fait, on passe de couple classique, si j'ose dire, à couple parental. Et c'est pas pareil. Et que finalement, le couple d'avance aurait tendance à se noyer, à ne plus exister dans la vie de famille. Or, il faut que, eh bien, reprendre du temps exclusif pour que ce couple soit la locomotive du train de la famille.
Je pense que je rebondis sur ce que tu dis, Gilles, en tant que soignante, en tant que femme, j'entends, et au fond, je pense qu'il y a une part très factuelle où tu as raison. Je pense qu'on peut même parler de violence. Faut mettre les termes, hein. Ça peut être violent, l'arrivée d'un enfant, à plein de niveaux. Ça peut être vraiment, vraiment difficile. Je pense qu'il faut expliquer au père, en effet, que quand une femme vient d'accoucher, voilà, pendant un bon petit moment, elle n'est pas apte physiquement et surtout, je dirais parfois psychiquement, à se tourner sexuellement vers le papa. Mais je pense que ce qui peut aussi favoriser de se retrouver, d'avoir des moments exclusifs, c'est si une femme sent son conjoint investi et que tous les deux, ils forment une équipe et qu'il y a des soins qui sont faits au bébé et qu'elle est allégée. Sans parler de sexualité, mais il va y avoir des moments où ils vont pouvoir se retrouver de manière exclusive, comme tu dis, Gilles, dans des moments de tendresse, dans des moments de rire, dans des moments d'échange, autour de repas, autour de tout ça. Donc après, la sexualité s'ensuivra quand les deux, et d'autant plus la femme, aura retrouvé une condition physique et psychique qui va lui permettre de se réinvestir dans cette relation. C'est vrai qu'il faut avoir en tête qu'une maman qui vient d'accoucher, elle a dans 90% de son cerveau, son bébé. C'est-à-dire que ça, c'est archaïque, c'est, on disait tout à l'heure, viscéral, animal. On ne parle pas d'instinct maternel, mais il y a ce qu'on appelle la préoccupation maternelle primaire qui, jusqu'aux 4 mois de l'enfant, anime la mère. On dit d'ailleurs que la mère, elle n'est pas apte à retravailler normalement, hein, les congés maternité ne sont pas faits pour, avant les 4 mois de son bébé. Pour dire à quel point c'est quelque chose qui, voilà, et donc c'est les générations passées, elle est dans des préoccupations de survie de son bébé. Et donc elle n'est pas toujours capable d'aller s'occuper d'autre chose et de reconstruire ce nouveau couple parental. Mais je dirais que là, la place du père, le rôle du père, le positionnement du père est fondamental puisque lui peut aider à ce que la mère, elle soit moins vacillante et qu'elle reprenne ses marques plus rapidement, plus facilement. C'est un facilitateur aussi, le père. Faut pas l'oublier, ça.
Qu'elle quitte ses habits de mère exclusive, si j'ose dire, pour revenir et femme et mère, parce que c'est important aussi de voir son conjoint, que ce soit l'homme ou la femme, pas uniquement comme le père ou comme la mère. Parce que sinon, évidemment, ça abîme la notion de désir sexuel. Il faut aussi quitter ces habits-là pour chacun se revoir comme on était avant. C'est-à-dire que quand on est mère, on n'est pas exclusivement père, et quand on est père, on n'est pas uniquement exclusivement père.
Je pense que effectivement, le fait d'avoir un père qui s'investit au quotidien avec l'enfant et qui, du coup, allège la charge mentale de la mère, en ferait quelqu'un de quelque part de plus désirable que si, à l'intérieur de moi, je nourris le ressentiment d'être toute seule dans ma merde avec mon bébé et que bon, le père, il va faire autre chose.
Évidemment. Là, pour être très cru avec vous, finalement, dans les ateliers, on leur dit ben, c'est normal que si on voit la femme uniquement comme la mère, on a une problématique de reprise d'activité sexuelle. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ben, on ne fait pas l'amour à sa mère. Donc il faut aussi apprendre à voir son conjoint et l'aider pour qu'elle se monte sous un autre jour qu'uniquement celui de la mère, bien qu'elle soit prise, comme tu l'as évoqué, Élodie, à l'instant, par cette préoccupation primaire, maternelle primaire, qui évidemment, c'est tant mieux, parce que c'est aussi un instinct qui va permettre donc, d'avoir cette focalisation sur le nourrisson, mais faire trop focus sur le nourrisson, ben, finalement, c'est aussi donner de la distance au couple, alors que le couple, c'est la dynamique de vie de famille. Donc voilà, il y a tout ce juste équilibre, si j'ose dire, qui n'est pas facile à trouver, et cette implication... Donc, Charline, du père, évidemment, dès le départ, eh bien, ça peut permettre à la maman de se soulager, de partir, comment dirais-je, à la reconquête de pour se faire du bien, pour se remettre, pour prendre soin d'elle. Voilà, vraiment, c'est important.
Je suis d'accord avec toi par rapport au juste équilibre, parce que dans le fond, tu as raison, hein, si le couple il s'éloigne trop, après il va avoir plus de difficultés à se retrouver. Après, je pense qu'il faut expliquer, sensibiliser les pères pour qu'il n'y ait pas de pression en postpartum sur les femmes qui sont déjà très très vulnérables, et je pense que c'est vraiment important de leur dire, là il va falloir faire preuve quand même de patience, et comme disait Charline, si vous voulez que les choses avancent, en laissant le temps bien évidemment, et ben voilà, il va falloir aussi comprendre que au niveau physique et psychique, il faut un petit peu de temps pour que les choses se remettent en place. Mais oui, il faut trouver un juste équilibre entre ce qu'on va accorder le temps qu'on va accorder au bébé, et puis ce qu'on va aussi accorder au niveau des adultes du couple parental.
Et en plus, il va falloir affronter une règle mathématique dont personne n'a réussi à ce jour à trouver vraiment donc la source de cette énigme, c'est que ben, finalement dans le postnatal, quand le couple se rapproche et que l'enfant est dans la chambre, l'enfant se réveille systématiquement au début d'un rapprochement.
Il a des détecteurs.
C'est une équation à une inconnue.
Mais quelque part, enfin. Ça fait partie de la discussion, je crois, que doivent avoir les couples aussi, c'est que le fait que l'enfant dorme dans la chambre ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rapprochement possible entre les parents. Ce rapprochement, il peut se faire d'abord ailleurs que dans la chambre, quand les parents en ont envie, et il peut se faire d'autres manières aussi.
Vous savez, quand on évoque cette question, on voit les mines qui changent. On a pu faire un reportage récemment à la maternité, justement, où la première question, le réalisateur était me dire, j'en reviens pas, la première question, c'est une question sur la sexualité, quoi. Voilà, donc on voit bien quand même ça préoccupe les pères les mamans sont dans leur 8e mois, donc on voit que c'est déjà quelque chose qui peut les tarauder, alors que finalement l'enfant n'est encore pas.
Mais je pense qu'il faut en parler, c'est un sujet qui est tabou, donc c'est en effet quelque chose à aborder, à échanger. Et en fait, c'est en échangeant aussi, là, pour le coup, entre hommes et entre femmes, qu'on peut trouver parfois aussi un terrain, avoir des éléments, là, on est entre hommes et entre femmes, et du coup, je pense qu'on s'apprend les uns des autres, on a des positionnements différents, mais qui sont riches, parce que ni les hommes ni les femmes n'ont raison, on a tous les deux raison. C'est complexe en fait comme problématique.
Ok, ça marche. Alors là, on a beaucoup discuté du postpartum. Il y a quelque chose qui se joue aussi dans le postpartum pour les femmes et pour les hommes, c'est que le congé paternité, même rallongé, est quand même plus court que celui de la mère. Et donc, il y a forcément un moment où la mère se retrouve seule avec son enfant toute la journée quand le père repart travailler. Quelle différence ça crée et quel décalage ça crée à la fois pour les mères et pour les pères, parce que je trouve qu'on entend beaucoup les mères et c'est important dire c'est très difficile d'être toute seule à la maison avec son enfant, je ne fais pas rien de toute la journée, je suis aussi fatiguée le soir, mais je trouve qu'on n'entend pas trop la position du père et le sentiment que lui peut ressentir quand il part travailler, soit du soulagement parce qu'il est content de pas être à la maison et on peut le comprendre parfois, soit aussi du décalage quand il rentre le soir parce que ben, la mère, elle a passé toute la journée avec son enfant et elle crée ce lien avec son enfant et le père, il n'a pas cette possibilité-là. Et donc, j'imagine que ça crée aussi un décalage. Qu'est-ce qui se joue à ce moment-là? Et j'aimerais bien que vous nous disiez un petit peu le point de vue du papa, comment il peut vivre ça, lui, de partir le matin et de rentrer le soir et d'être en décalage aussi avec sa femme et son bébé.
C'est un moment dans le cours, que c'est ce que j'évoque, dans les cours Futur Papa, et donc que finalement, l'homme, on ne le prévient pas. Mais en post-natal, il se retrouve à reprendre le travail rapidement, et quand il rentre le soir, et bien évidemment, il a la fatigue du travail, et il va devoir s'occuper de sa conjointe encore plus que pendant la grossesse. Il va devoir créer du lien à son nourrisson, avec son nourrisson en participant à tout ce qui est change, bain, etc., gestes du quotidien. Et en plus, il va devoir s'impliquer dans les tâches ménagères dans lesquelles il n'avait peut-être pas l'habitude de s'impliquer jusqu'à présent. Donc, finalement, ça demande un regain d'énergie, un regain de participation, etc., qui fait que quand on n'est pas prévenu de ça, ça fait partie aussi des grands bouleversements du post-natal. Et on voit ce duo maman-bébé qui se renforce. Et si on n'a pas ce niveau d'implication, finalement, on va devenir l'adjoint, si j'ose dire, de service, parce que la maman, elle a ses marques, elle a ses habitudes, puisqu'il y a ce décalage, donc, comme tu l'as évoqué, temporel. Ça crée aussi un décalage affectif. Et de ce fait, elle va avoir tendance à être dans des réflexes et puis faire les actions du quotidien. Ce qui va mettre le papa un petit peu sur le côté, il suffit que lui, il ne cherche pas à prendre cette place-là et ça va, ça va renforcer donc, cet écart qu'il peut y avoir entre le papa, la maman, entre tous les deux et puis également aussi l'écart de la distance dans le lien avec l'enfant. Et on finit par se retrouver les bras ballants dans le canapé en attendant et en faisant ce qu'on disait au départ, de se dire « on va attendre les premières interactions » pour pouvoir commencer à créer du lien avec son enfant.
Je te rejoins tout à fait sur ce que tu viens de dire. Je suis complètement d'accord avec ce décalage temporel et affectif qui se crée et cette notion d'adjoint qui m'a bien fait rire, bien fait sourire quand tu l'as dit, parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vont sourire en entendant ça. Il y a déjà un décalage d'emblée du fait que la mère, elle porte le bébé. Et donc, c'est le deuxième décalage qui se crée. C'est la deuxième injustice, je dirais. Il n'a pas porté l'enfant. Et en plus, il a un congé paternité plus court, beaucoup plus court. Bon, il vient de se rallonger, mais il est encore deux fois plus court quand même. Et donc, en effet, la mère va prendre ses marques, va faire des soins, va échanger, va être dans l'interaction. Et le père, il ne va pas voir, il ne va pas vivre tout ça. Et il ne pourra pas le rattraper d'une certaine manière. La maman va pouvoir lui raconter, lui envoyer des vidéos, lui envoyer des photos, mais ce n'est pas pareil. Et puis, il a repris le travail. Et au travail, on va pouvoir lui faire des réflexions du genre « Ah bon, c'est toi qui te lèves la nuit, mais tu travailles quand même. » Voilà, qu'on entend encore dans certaines entreprises. Et puis, on parle de la place du père. Donc, quelle place il va prendre? Alors, il peut décider de se mettre dans le canapé. Puis, il peut aussi se dire « Allez, j'y vais. Je sais que j'ai moins de congés paternels. J'ai envie de créer du lien. J'ai déjà commencé pendant mon premier mois. Allez, je m'y mets et je fais des soins. » Il y a aussi quelle place la mère, là, elle va laisser, puisque elle va avoir ce sentiment de bien gérer, d'avoir trouvé ses marques. Donc là, il va y avoir aussi ce rôle. Quel rôle elle va prendre? Est-ce qu'elle va réussir? L'idéal, c'est qu'elle réussisse à laisser une partie de la responsabilité le soir au papa, à lâcher prise dès le début. On disait plutôt penser à court terme, penser à long terme, pardon, plutôt qu'à court terme, c'est-à-dire se dire qu'est-ce que ça va donner le fait que je gère tout et que je veuille. Parfois, il y a aussi ce sentiment de c'est inconscient, mais bon, je préfère garder la gestion, j'ai pris mes marques, c'est plus facile que d'aller peut-être expliquer ça ou ça, qu'à changer. Mais là, les mamans ont aussi leur rôle à se dire, allez, il faut que je lâche un peu prise, même si c'est difficile pour moi parce que c'est irrationnel, parce que c'est viscéral, parce qu'il y a des choses qui sont hormonales. Je pense qu'il y a de plus en plus de femmes qui réussissent à le faire au vu de l'implication des pères, mais c'est vraiment une histoire de balancier, de comment je vais réussir à trouver l'équilibre.
Je trouve ça hyper intéressant. J'avais entendu il y a plusieurs années une interview dans le podcast de la Maîtressence, un des premiers épisodes où c'était un homme qui était interviewé et qui racontait ça. Il disait, mais moi, j'ai passé toute ma journée au boulot, j'étais pas connectée, je rentre le soir, c'est l'heure des pleurs de décharge, c'est une tempête émotionnelle pour tout le monde, j'ai l'impression d'être dans une tornade et de pas savoir où me mettre. Et c'est aussi, je crois que c'est important pour nous les femmes d'entendre qu'il leur faut un temps pour se reconnecter à ce qui se passe à la maison, et que c'est normal et qu'il faut qu'on leur laisse aussi ce temps-là et cette place-là. Pour qu'ils arrivent à prendre leur marque justement le soir.
Moi, j'aurais aimé entendre, avoir le retour de femmes et d'hommes, d'entendre ça, c'est-à-dire d'entendre de dire au début, il y a quelque chose d'un peu animal, où, voilà, mais on a vécu ces situations-là, le père, il a sa place, son positionnement, c'est hyper important, donnez-lui sa place, passer le relais, entre guillemets. Passer ce relais, c'est hyper important dans les premiers moments. Et si c'est un père qui est demandeur, bah, c'est plus simple. Et si c'est un père qui ne sait pas trop où se placer, et bah, allez, mesdames, clac, passez le relais parce que vous allez vous rendre service, leur rendre service. Et puis, bah, là, dans cette triade, ça va être plus que bénéfique.
J'ai cru comprendre que ce n'était pas facile chez la jeune maman, dû à cette préoccupation maternelle primaire que tu évoquais. Et effectivement, comme disait une personne toute proche de moi, à qui je faisais la remarque récemment, de dire, mais tu vois bien que, donc il sait faire. Elle me dit, oui, non, il fait bien, il n'y a aucun problème, je vois qu'il fait bien, mais quand c'est fait par moi, j'ai l'impression que c'est mieux fait quand même.
Ça illustre totalement les choses.
Moi, j'aimerais évoquer aussi cette question de la paternalisation, maternalisation, mais de dire aux femmes en même temps qui nous écoutent et qui ont la chance de nous écouter que ben, finalement, quand on le fait que l'homme prenne, c'est comme la femme, il faut d'abord que cette notion du psychologique avant que ça se traduise dans la manipulation, j'entends la manipulation au travers des gestes du quotidien, et que finalement, quand elle va faire des compliments descriptifs à ce nouvel homme qu'il est, parce qu'il n'est pas, voilà, il est devenu père, eh bien, ça va participer énormément à cette prise de conscience de toutes les qualités qui font de lui ce jeune père, qui va faire que demain, il va d'autant plus s'impliquer, et vice-versa dans le sens de la maman. Donc, c'est important finalement de se dire qu'on devient père ou qu'on devient mère, grâce à l'enfant, certes, grâce à la présence de l'enfant, grâce au certificat, donc au livret de famille, mais c'est aussi beaucoup, pour beaucoup, grâce à son conjoint.
Ok, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour des questions que j'avais pour vous. Est-ce que vous voulez chacun dire un petit mot de conclusion ?
Bah, je suis absolument ravie d'avoir échangé autour de la paternité et de la maternité, puisque les deux sont intimement liés. Je suis ravie d'avoir pu le faire avec un homme qui s'investit beaucoup dans les ateliers Futur Papa et voilà, c'est un des rares hommes que je connaisse qui soit dans ces milieux-là aussi investi. Donc, je suis vraiment ravie de ces échanges fructueux, lumineux, qui m'ont apporté des choses aujourd'hui et qui, j'espère, apporteront aussi des éléments de réponse à ceux qui vont l'écouter.
Ben écoute, moi, merci Elodie, parce que tu es une source d'enrichissement pour moi depuis que finalement, on échange ensemble et c'est bien parce que ce podcast, c'est un peu le concentré de tous les échanges qu'on a pu avoir sur cette question de paternité, maternité qui sont intimement liées. Moi, il y a deux choses qui m'apparaissent essentielles que j'avais déjà évoquées, mais en rappel de fin, pour dire que ben, l'enfant, c'est le trait d'union, mais ça peut être aussi le trait séparateur. Il ne faut pas que ça devienne le cas. Et il y a tous ces phénomènes à appréhender, ces comportements à avoir pour éviter qu'éventuellement il y ait quelque chose de négatif qui puisse arriver dans le couple, donc sur le postnatal, dans cette jeune vie de famille. Et puis la deuxième chose qui m'apparaît importante également aussi, c'est d'autant pour les pères de leur envoyer ce message que cette question de la posture du père en lien avec la masculinité, en lien avec la force, ce n'est pas qu'un seul message descendant, c'est pas vertical, c'est horizontal, qu'il faut prendre énormément de plaisir dans cette parentalité. Ce n'est pas juste faire des gestes ou ce n'est pas juste réaliser des actions, faire pour faire. Il faut être, totalement, plein de être investi par le jeu. Il faut que ce soit un jeu. Moi, je pense que c'est ça qui doit nous guider. Et ça nous permet d'avoir la légèreté au moment où il le faut, parce qu'il faut aussi pouvoir affronter ces difficultés avec une forme de légèreté. Et puis aussi amener de la joie pour la dynamique et du rire pour partager dans le couple et en famille. Voilà, pour que finalement, la chance qu'on a eue de devenir parent, elle soit sublimée.
Ok, écoutez, merci beaucoup à tous les deux. C'était vraiment très intéressant et je suis d'accord avec vous. C'était intéressant de faire ça avec un homme et une femme professionnelle de la parentalité, parce que je crois que c'est très important que tout le monde discute ensemble de tout ça. Donc merci beaucoup à tous les deux.
Merci Charlie.
Merci à toi.
Cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il permettra à de nombreux couples d'ouvrir des discussions sur l'implication et la place de chacun en fonction de vos envies. En complément de cet épisode, vous pouvez également écouter l'épisode 30 avec le docteur Jeberovic sur l'anticipation du déséquilibre que va créer la naissance d'un enfant pour éviter le baby clash. Pour retrouver les accompagnements proposés par Elodie et ses collègues, rendez-vous sur leur site www.myjoliefamily.fr. Pour retrouver les ateliers proposés par Gilles et les autres papas et réservés en ligne, rendez-vous sur le site www.atelierdufuturpapa.com. Je vous mets tous les liens dans les notes descriptives de l'épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour recevoir une fiche résumée de cet épisode et de tous les autres de la saison 2, allez vous abonner sur Patreon en suivant le lien dans les notes descriptives de l'épisode. Si l'épisode vous a plu, parlez-en autour de vous, à vos amis qui pourraient être intéressés et sur vos réseaux sociaux. Parlez-en également à votre sage-femme, votre médecin généraliste, votre pédiatre ou tout autre professionnel qui vous accompagne afin qu'à leur tour ils puissent en parler à d'autres parents. Vous pouvez retrouver tous les épisodes ainsi que leurs notes classées par âge et par catégorie sur le site internet www.parentsinformés.fr. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.